création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. Tout commence dans l'enfance. Un chemin surgit qui parfois sera égaré à l'adolescence. Il y a l'ennui où vont se ficher d'étranges expériences. Il y a de somptueux frissons, des odeurs troublantes, des frôlements énigmatiques, des chagrins puissants. Il repense aux errances de l'enfant de 11 ans à travers un labyrinthe déployant portes et sous-sols. De petites choses invisibles et souterraines alimentent les premiers émois. Il se souvient de son premier désir sexuel ou amoureux. L'instant d'avant, c'était l'énigme. Il avance, il souffle, une onde surgit qui trop tôt s'épuise. Un récit intime et personnel. La ville et ses dédales comme décor. Total désir. Marc-Antoine Granier, Lionel Quentin, création On Air.
Quand j'avais 11 ans, j'ai beaucoup parcouru les rues de ma ville. Je m'ennuyais, j'observais les choses, les gens. Puis un jour, j'ai rencontré un garçon. Il avait le même âge que moi, à peu près. Avec lui, j'ai fait mes premières expériences sexuelles dans les sous-sols de la ville. On s'est donné du plaisir. Il m'a masturbé. Ça a duré quelque temps. Avec lui, j'ai découvert le désir. Et puis un jour, il est parti. Il est parti et pendant longtemps, j'ai voulu oublier cette histoire. J'avais comme un peu honte. J'avais ressenti un trouble. Comme si c'était le mauvais chemin de ma construction d'homme. Pourtant, j'avais beaucoup d'attirance pour les filles. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une force, cette expérience. Ce garçon, je l'ai revu quand j'avais 25 ans. Il était devenu une très belle femme.
Ces parcs, ces bancs publics, ces impasses, ces allées d'immeubles. Même parfois un champ au milieu de la ville. Ces buissons, cachés dans un buisson. Avec des gens qui passaient juste à côté, il faut le faire. C'est drôle.
La salle de bain. À peu près rangée. Il y a largement toutes les couleurs. Quelques bouts d'oreilles là, t'as les yeux là, tout ce qu'il y a pour les yeux, les parfums. Le summum, c'est du col, c'est en poudre. Donc avec le bâton, voilà, le col, petite bouteille, le produit, puis le mascara. Après, voilà. Par quoi tu commences? Je commence par plus avoir de poils déjà. Quand ils disent les poils, rasage. Je crois que j'ai des 5 lames maintenant, parce qu'ils font des rasoirs hallucinants. Je refais un peu les sourcils, la pince à épiler. Je vais faire tous les poils qui sont en dehors de la barbe, pareil, la pince. Après, c'est pour mes fonds de teint, t'as des fonds de teint là. Les fonds de teint, d'abord, tu commences par virer le gris de la barbe, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune marque de pilosité. Et après, après, le but, c'est de redessiner sur un visage masculin, redessiner un visage féminin, donc avec les ombres, avec donc éventuellement remonter les pommettes, réduire la mâchoire avec la lumière et l'ombre. C'est-à-dire l'ombre du cou, tu la remontes un peu plus haut. tu adoucis les lignes, enfin, c'est tout un truc, quoi. Donc c'est des fonds de teint, des poudres. Voilà, voile change, ouais, aussi. C'est plus de points d'exclamation, plus de points de suspension, plus de virgules, ponctuation, voilà, plus présente, quoi. C'est, dans la voix, il y a le monotone disparaît, quoi. C'est aussi un jeu, enfin. Et voilà, et puis après, c'est l'art de faire le plus subtilement possible.
J'ai apprivoisé cette ville. Justement, en y faisant l'amour un peu dans tous les coins, hein, ciel ouvert, avec mon amant. Avec mon amant. Pendant 2 ans, on a laissé notre trace. Je veux dire, on laisse une espèce de trace de stupeur qui s'étale sur toute la ville, ses recoins, ses portes cochères, ses cimetières. Ces parcs.
Ma ville, endormie, au loin, elle me traverse ou je la traverse. Je tourne en rond petits points éclairés dans mon esprit. J'enregistre ses recoins. Je lèche ses interstices. Je m'insère dans ses fentes. Je fouille peau à peau ses sons les plus douteux. Je m'incruste dans son corps, le charnel de ses rues m'emporte. Ses méandres sonores s'écoulent dans mes oreilles. Ma ville, c'est mon allié, mon amante. J'aime rôder la nuit dans ses impasses. Je débusque ses envies entraînant son bitume, sa couleur, ses instants. Son souffle dans mon dos se glisse dans les heures les plus sombres de la nuit. À l'affût de ses moindres échos, je tente l'invisible sonore. Passé 2 heures du matin, ses caresses se font plus douces. On entend au loin son cri qui monte. Je la dévore doucement et elle me dit des mots qui m'excitent terriblement. Qui m'embrase. Dans quelques heures, la nuit laissera place à cette petite aube. Petite aube chérie, passagère, rapide, comme le chemin de l'enfance.
Je me rappelle bien de ce terrain vague. Je l'appelais comme ça. En fait, c'était un boulevard. Large. Il y avait des travaux dessus, comme si on l'avait éventré.
Transformé en espace de jeu, une zone de droit à l'oubli pour l'enfance. Des monticules de pierre, de la ferraille en vrac, une étendue de pensées sauvages, trous gisants, essence d'un terrain perdu au milieu de l'urbain. Sans frontières. Un terrain vague qui laisse quelques instants une ville désarticulée, une ville qui doute, qui engendre un désordre bienfaisant. Moi, à 11 ans, planté au milieu de tout ça, traversant d'un trottoir à l'autre, mon vélo bleu, un fidèle bicross étoilé sur le guidon.
Les chemins, c'était le Solex, c'était en Solex. Ça se passait en Solex et en moto. Voilà, donc les chemins, c'était des allées et venues comme ça. Tu sais, quand t'es adolescent, tu cherches à être vu surtout, quoi. Donc tu passes, tu repasses sur le chemin et tu essayes d'être vu, et voilà.
Mon passage à l'adolescence s'est fait avec cette amitié-là, cette amitié avec Lionel, qui était mon ami d'enfance, mon meilleur ami, et qui est resté une personne qui m'accompagne, alors qu'aujourd'hui nous nous voyons relativement peu, mais chaque fois qu'on se voit... ça accroche tout de suite. Et puis après, avec l'entrée dans l'adolescence, est venu le premier sentiment amoureux et le premier Le premier désir, oui. Le premier désir vrai, qui ne soit pas un désir pour quelque chose de, d'imaginer ou de rêver. Le désir pour, une, pour la peau, l'odeur de l'autre. Voilà.
Oui, alors je passais devant des garçons, et il y avait deux garçons en fait. Il y en avait un qui était où c'était très facile, où c'était de l'amitié plus amoureuse, et puis l'autre c'était vraiment du désir amoureux, du désir sexuel quoi. C'était vraiment la naissance du désir sexuel qui s'est pas bien passé après parce que vu à l'impuissance quoi, quelque chose d'impuissant qui a pas pu se produire.
Au loin, la ville, cette ville. Quand ça n'allait pas, je parlais à son vacarme. Je partais au bord de ses plages. Le silence des parkings, les voitures abandonnées. Je laissais mes confidences enivrer ses égouts. Ses longs trottoirs. Ces 2 kilomètres de faux plats, comme une langue déroulée et pointue tout au bout. Une éternité finissant en ligne d'horizon, plaisir lointain et lumineux. Cette musique que je fabriquais, celle de mon adolescence, celle de mon ennui, celle où je m'enfuis là maintenant, tout de suite. Cette rupture qui allait tenir ses promesses.
Lionel et moi, nous faisions du théâtre et on a fait une représentation au Café Théâtre de la Graine au mois de juillet. Je crois qu'on avait 14 ans à peu près, 14-15. Et en sortant du théâtre, on s'est promené avec d'autres ados sur les quais de Saône. Il faisait une chaleur épouvantable, accablante, très très agréable. C'était en plein été et on avait pris l'habitude de se promener main dans la main pour faire corps, comme ça. C'était important. Et Lionel a pris ma main, et je me souviens qu'au moment où sa main s'est approchée de la mienne pour la prendre, le dos de ma main a frôlé le dos de sa main. Et ça a été un instant de grâce, mais alors totalement éphémère et magnifique, magnifique. Mon cœur s'est mis à battre, je me suis mise à trembler, et puis j'ai pris sa main, et là je ne voulais plus bouger, j'aurais aimé que cet instant dure toute l'éternité, il a duré toute l'éternité d'ailleurs. À l'époque, quand je suis entrée dans l'adolescence et que je suis devenue donc une jeune fille, donc j'ai acquis un corps de femme, de jeune femme, et je suis passée d'une petite fille grande et malingre à une jeune fille, et j'étais jolie, j'étais très jolie quand j'étais jeune. Alors, j'ai suscité le désir, beaucoup, et je ne le comprenais pas, parce que je ne m'étais jamais vue comme une jolie personne, jamais. Enfant, on ne m'avait jamais trouvée jolie, c'était un sujet tabou. Un jour, j'ai posé la question à ma mère quand même, je devais avoir une dizaine d'années, « Maman, est-ce que tu me trouves jolie ?» Et elle m'a répondu, « Ce ne serait pas, de te le dire, ce ne serait pas un service à te rendre. » Donc, c'était quelque chose de totalement occulté. J'avais l'impression de n'être ni fille, ni garçon, ni de n'avoir pas de sexe, de n'avoir pas d'attrait, ni pour les autres, ni voilà, j'étais un pur esprit ou un pur cœur, ou il n'y a pas de corps. Alors tout d'un coup, à l'adolescence, et puis juste après, je me retrouve très jolie jeune fille, on me court après dans la rue, il y a eu une période de ma vie où j'avais peur de sortir, parce que je me faisais chaque fois aborder systématiquement. Je passais un quart d'heure dehors, et ça y est, c'était parti. Leurs gestes, leurs mots, les injures qui fusent quand on ne répond pas, par exemple, à quelqu'un qui vous aborde. Pourquoi ? Et puis, je me suis mise à me regarder, à me demander si j'étais assez bien habillée, correctement habillée. Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi est-ce que je n'étais plus libre de vivre comme je l'avais toujours été ? Je n'étais plus libre. Je suis tombée dans une prison. Le désir des autres, j'ai trouvé que c'était une prison. Donc ça m'a plutôt inhibée, et puis j'ai rencontré plusieurs hommes, des hommes plus âgés, qui étaient plus attentifs. Mais finalement, leur désir était là aussi quelque part. Ils avaient envie de me manger, j'avais l'impression qu'ils avaient envie de me manger. Et je me définissais par rapport à leur désir à eux. Je me disais, bon, bah, alors c'est normal. Bon, bah, alors ça doit être comme ça pour tout le monde. Donc, alors le désir et la sexualité, donc ça doit être ça. Alors je vais devoir m'adapter à ça et répondre à cette demande-là. Mais rien ne venait de mon désir à moi. C'était pas moi.
Le fleuve n'est pas content, il est en crue. Ça déborde. Et il s'insinue sous la peau de la ville, partout, dans son corps, dans son sexe, dans son cœur. Cet ennui, j'en prenais soin. J'apprenais à le connaître. Je le découvrais, moi, jeune début d'ado dans son quartier, dans mon chez-moi. Les ombres de mes proches traversent ce grand salon, s'enferment dans leur chambre, ressortent. Éclats de rire, cris de colère, transpercent la porte d'entrée et viennent se cogner contre la réverbe du couloir. Parfois, j'en pleure. Une mère, une sœur, tournoient autour de moi. Grande, belle, passionnante, je regarde ses formes de 18 ans et j'oublie qu'elle est ma sœur. 7 ans de plus, j'envisage dans un regard furtif les poils de son pubis. Ce jour-là, je prends une chaise. Je m'assieds devant la porte fermée de la salle de bain et je n'en perds pas une miette. J'écoute le langage de l'intime. L'eau se cogne contre la baignoire, les souffles deviennent chauds, fente de la porte, buée volatile, elle et lui déroulent leur histoire de peau. Ces sons langoureux sortis d'une gorge, ces cris de supplice, ces battements de l'eau contre leur chair, dans ma tête ça fabrique, image mentale si puissante. Je m'empresse de les ranger, j'écoute ces sons, je vis avec les grands, si loin de mon enfance.
Ma première expérience avec un mec, c'était 13 ans. Ma première expérience avec une nana, en dehors des attouchements, des caresses, même qui vont loin avec ma frangine, c'était 15 ans. 13 ans avec un mec. Ma bisexualité, elle est arrivée assez tôt. J'étais attiré par les femmes. J'avais une mère très belle, très féminine, très... Puis j'ai attiré par des copines de mon bled, 4 maisons plus loin, etc. Et avec des histoires comme ça depuis l'enfance, enfin, je te montre ma zézette, tu montes ton zizi, bah vas-y. Ouais. Et puis avec du désir, et puis aussi les mêmes désirs et les mêmes fantasmes vers des garçons de mon âge, des filles, des garçons, quoi. Assez tôt, et puis assez tôt, j'ai aimé me glisser dans les fringues de ma mère, dans ses chaussures à talons vertigineux, etc. Déjà, gamin, je me posais des questions sur les gens. Sur le genre, on me disait, non, mais ça, c'est un truc de fille, non, ça, c'est un truc de garçon, faut faire comme ça. Et ce qui fait que, en fondant un peu comme ça dans les fringues de ma mère, dans ses odeurs aussi, dans ses talons, ma mère qui me prend en flag, je pensais qu'elle était partie, elle est revenue, enfin... Donc il me dit, qui me dit c'est pas bien, faut pas faire ça, machin. Puis après il me dit, bon, bah, si tu veux marcher avec des talons, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc ce discours ambigu, enfin une espèce de feu vert non dit. Derrière, moi j'ai un peu toujours, du coup, ce désir de féminité, pas d'être femme, mais d'être, enfin aussi de sortir de la féminité que j'avais. J'ai voulu avoir les cheveux longs, ma mère m'a dit ok, bah, laisse-toi pousser les cheveux. J'ai voulu avoir une boucle d'oreille, puis deux, ma mère puis ma grand-mère m'ont dit, bah, on fait le trou si tu veux. Il y avait aussi un rapport assez ambigu avec ma grande sœur, qui elle était pubère, et vu qu'on était assez proches, très complices, elle me défendait quand je faisais des conneries, elle me défendait toujours, enfin. Donc il y avait aussi des caresses assez que moi je trouvais jolies, même si je les trouvais étranges, et il y avait un côté un peu fantastique. Enfin, je découvrais la sexualité, donc voilà, je découvrais aussi la sexualité de ma sœur en même temps. Donc je me suis rendu compte que la sexualité, c'est quelque chose de très présent dans la vie de chacun. Et ça a peut-être stimulé énormément mon désir, ou peut-être mon désir était déjà présent, et je sais pas, il a juste été exploité par les personnes autour de moi. Je n'ai pas d'avis, je me suis jamais vraiment posé la question, et, parce que j'ai jamais eu besoin de me la poser celle-là.
Ce tunnel me fait penser à un rêve. Un rêve d'enfant que je faisais quand j'avais 7-8 ans. Je m'en rappelle, j'étais dans une rue et j'avais ma mère qui était au premier étage d'un immeuble dans un appartement que je ne connaissais pas et qui était en sous-vêtements, et derrière elle il y avait un homme qui l'embrassait dans le cou et elle me saluait. Et je me rappelle que j'avais la voix enrouée. Je ne pouvais pas parler. Ou très peu. En tout cas, elle ne m'entendait pas beaucoup. Mais elle me saluait de la main. Elle me disait bonjour. Et à côté de moi, il y avait un sac. Un grand sac de sport. Un grand sac de sport de couleur kaki. C'était le sac de mon père. Et d'un seul coup, ce sac me mange. Il m'avale. En escaladant l'enceinte d'un jardin, que je remarque l'agilité de son corps. Son allure, je crois qu'il me plaît. Je n'ai aucune honte à me le dire. Et lui, il me prend sous son bras, il m'emmène. Je suis ses pas, je sens qu'on est bien. On se cale sous le porche du jardin, il m'offre des bonbons. On est des enfants, encore. J'ai envie de lui dire qu'on pourrait être des enfants autrement. Il dégrafe son pantalon, et moi aussi. Rien ne vient, un peu de gêne. Il passe derrière moi, je sens à peine son souffle effleurer mes fesses. J'ai un peu peur. On s'amuse aussi à crever les pneus de voiture, à les ouvrir. On se retrouve dedans, c'est débile, mais à mon âge, j'aime les mauvais garçons. Ceux qui m'apprennent la vie. Ils me demandent si je me suis déjà masturbé. On se dit ça à cet âge-là. Une compagnie si douce. Ils le touchent, on se touche, des gestes simples, le long des jambes, frissonnantes jusqu'à l'aine. On ne dit rien si ce n'est des sourires, des rires gênés à peine aux entournures. La pression s'engage dans l'habitacle. Le béton froid du parking est une boîte où le monde se fabrique. Un monde qui enterre mon ennui, le transforme en inédit. J'entends au loin le train de mon enfance. Les étages s'accumulent, je traverse des cavernes obscures, ciels et paysages. Mon regard enfuit ce monde, mon rire à jamais perdu. Mes yeux se perdent, mes pensées me quittent, j'avance tout droit. Je ralentis, la peur approche, j'hésite, je plonge. L'émail blanc coule chaud. Instant d'arrêt. Sa main, engluée de mon plaisir libéré et quelques secondes de vide. De rêves trop courts. Aucune question, juste le refaire un jour, entouré de ma ville. Encore et encore, sentir l'odeur de nos envies, de nos années précises, de nos gestes débutants. Cherchant l'impossible voie, l'inconnu, on cherche et on le sait, la même onde sensible nous traverse. On avait besoin de cela, tous les deux, à cet instant.
Un mec m'a pris en stop. C'était pas très vieux, quoi. Il avait 30 ans. J'avais 13 ans passé. Il s'était garé, il était venu... Il est sorti de la voiture, on est allé se mettre... Et voilà, il m'a touché, il m'a... C'était en été même, il m'a déshabillé d'ailleurs, ouais. Il m'a montré sa queue. Il m'a guidé, j'ai fait des caresses. Il léchait ma queue. C'était plutôt un beau moment, ouais. C'était plutôt un beau moment. À tel point que ce mec, aujourd'hui, je le vois encore. Et avec qui on a eu une histoire, non une histoire amoureuse ou sexuelle, mais une histoire de vie, quoi.
Je passe des moments seuls avec lui, qui sont des moments privilégiés, parce que je lui donne des cours.
On s'est vu des temps régulièrement, on s'est perdu de vue, on s'est recroisés, on s'est reperdu de vue.
Donc c'est très intéressant, parce que je peux le faire parler, lui poser un tas de questions. Je suis son professeur, il est obligé de me répondre. Et ainsi, on passe du temps ensemble à discuter, à se découvrir mutuellement. Puis je suis poussée un peu dans ses retranchements. C'est drôle, hein, c'est drôle. Et puis lui me regarde, par contre. Lui, il me regarde. Je suis debout devant lui et c'est un moment, je sais, que j'y vais pour être regardée. Et ça, en tout bien, tout honneur, parce que dans ce cadre-là, c'est permis. Si c'était simplement quelqu'un que j'avais rencontré comme ça une soirée, je pourrais pas lui dire bon bah écoute, on va dans ton salon ou chez moi, tu me parles et puis tu me regardes, ça va pas. Alors que là tout est posé pour, c'est un cadeau. Hein. Et puis il me raconte sa vie, il me raconte ça, il me raconte son histoire de cette année, il me raconte. Je me dis, mais en fait, il est libre, il est disponible, il m'ouvre les bras, il me sourit et il m'ouvre les bras. Il a certes une épouse, mais apparemment, elle n'a pas plus d'importance qu'un meuble dans sa vie. Et puis, de toute façon, ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas. Il est, voilà, sur son il y a une histoire qui est close, qui est derrière lui. Il a envie. Et puis, il a été adroit aussi. Il a su me faire parler. Il a su me faire parler, c'est rare. Et moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et donc, je suis tombée dans ses bras. Il ouvre grand les bras et moi, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans. Et après le cours, on est allé déjeuner ensemble. Et quand nous sommes rentrés en voiture, il a posé sa main sur... c'était en été, une fois de plus, hein, décidément. J'étais en jupe, alors il a posé sa main sur ma cuisse, il a posé sa main sur le genou, et puis c'est un grand homme avec de grandes mains, et moi je suis plutôt mince, alors j'avais l'impression que cette main entourait tout le genou, toute ma cuisse d'une seule main, et ça m'a submergée, Je suis devenue rouge comme une tomate et j'ai des cheveux assez volumineux. Hein. J'ai des cheveux longs, donc je me cachais sous mes cheveux, sous ma crinière. J'avais peur qu'on nous voie. Mais j'étais là au cours suivant. Et il m'a emmenée chez lui. L'après-midi, je me souviens. Il m'a emmenée chez lui et on a fait l'amour toute l'après-midi dans son lit. Et c'était un moment béat, presque. Beaucoup de plaisir, déjà. J'avais l'impression de boire un verre d'eau après avoir traversé le désert. Voilà. Il m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné énormément de choses. Il m'a donné tout, quoi. Il y avait tout là-dedans. C'était l'amant, ouais, l'amant dans toute sa splendeur. L'amant qui donne sa peau, qui donne sa présence, qui donne ce peau à peau, qui donne son âme, son cœur, sur le moment et sans parole, parce que simplement, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là en moi, contre moi. Il n'y a que ça, quoi. Et là, il y a que ça qui existe. Et alors, sur le coup, j'étais presque tétanisée et il était hors de question que je fasse ou que je dise quoi que ce soit. Et je laissais les choses venir. Il fallait presque ne pas bouger pour ne pas toucher à cette magie-là. Je buvais, j'avais besoin de boire ça. Là, c'était moi qui avais besoin.
Cigarette, bord de fenêtre, regard en bas. Au fond de la cour, elle fume comme moi. Sans se voir, nos regards se croisent. Elle a l'air de penser à demain, à tous les chemins qu'elle va parcourir dans la ville, envieuse. Elle pose sa main là, moi je la regarde. Je me dis que je ne devrais pas, et puis son autre main se pose sur le rebord de la fenêtre. Son regard est toujours le même. Même si ses lèvres vacillent petit à petit, je sens son geste s'installer. Son visage se défigure en délicat. Elle accède à ce chemin lancinant du laisser-aller, de la promesse accomplie. Sans qu'elle me voie, qu'elle me sente, je m'approche, mais en fait elle sait. Juste une petite seconde. Je suis un loup. Mon grand-père m'appelait ainsi. Ce loup qui m'emporte pose ses premiers crocs sur son épaule. Je la griffe, le long de la jambe. Elle empoigne mon bras. Elle prend ma patte pour la fourrer dans ses fesses. Je fouille. Elle se retourne, regarde ma gueule salivante, m'attrape les cheveux, me les tire. Bien droit, je suis liquide. En fait, je ne suis plus rien. Ou bien si, je suis cette bête. D'un coup de hanche, elle me force à me coucher. À coucher la bête. Elle est assise sur ma gueule, caresse mes poils. Mon sexe d'animal se durcit. Je tombe dans les limbes d'un goût amer glissant dans ma gorge. J'en redemande. Le flux incessant ne s'arrête pas, se déverse. On me ligote les pattes, mon hurlement se tue. À la merci de tout, je cherche la meute. Personne. Je caresse encore de ma bouche entière rose musquée dominatrice. Cette entrejambe me prend au piège. J'ai envie de sentir l'odeur de son cul. Elle se lève, pose ses mains autour de mon cou, m'étrangle de plus en plus. Elle joue de ses lèvres sur le bout de mon sexe, ne lâche rien de mon cou. S'assoit violemment sur moi. Elle lèche ma gueule pleine de son odeur. Serre ses mains encore et encore. Je suis étranglé, comme obligé de subir un dernier instant qui me serre. Je perds connaissance, au loin, son cri.
Thank you.
On peut retourner à l'observatoire et partir le long de la route, je sais pas s'il y a des chemins.
J'ai 30 ans d'expérience sexuelle urbaine, on va dire. Les pissotières, c'est des lieux marqués, très masculins, très... Ben, les odeurs, quoi. C'est quelque chose, les odeurs. Et dans ces lieux de rencontre, l'odeur a un poids énorme. Quasiment animal, quoi. C'est quasiment chien.
Depuis 3 mois, Stéphane, j'ai jamais rien eu. Non, mais depuis 3 mois, Stéphane, j'ai rien eu, moi. C'était que pour toi. Et les... Mais qu'est-ce que ça veut me foutre? Et moi? Pourquoi avec moi, t'as jamais rien voulu faire? Bah, dis-moi. Tu dis, ah, tu veux que je te saute? Attends, depuis 3 mois qu'on se voit, pourquoi pas une seule fois c'est arrivé? Je t'ai demandé plusieurs fois. Bah oui, je te le reproche, Stéphane, parce que tu me dis, je te bloque. Mais pas comme ça. Je veux pas ça. Je te dis juste que depuis 3 mois, on se voit. Ça aurait dû arriver au moins une fois. C'est tout le temps moi qui te suce. C'est tout le temps moi qui te suce. Tout le temps.
Elle avait l'air triste. Elle avait encore envie de lui. Elle n'osait pas raccrocher.
C'était fébrile, c'était le corps qui... Tu trembles, tu marches, tu peux plus marcher, tu peux... T'as l'angoisse qui t'étreint, tu peux plus respirer, tu... Mais curieusement, c'est lui qui m'a fait pleurer à nouveau. J'ai pleuré après, il m'a fait pleurer, quoi. Ce qui fait que ça s'écoulait quand même. Parce que j'avais pas pleuré, parce que j'ai perdu mon père il y a 17 ans, et j'ai pas pleuré à la mort de mon père, j'ai pas pleuré pendant 8 ans après. Ce manque a redéclenché les larmes. C'est les larmes qui me sont, c'est-à-dire c'est le désespoir. Si tu veux, au début, j'étais d'une inquiétude. La moindre chose que je disais, je me disais comment ça va être reçu. Ça m'avait pris la tête, comme on dit. Ça me prenait. Mais en même temps, au début, ça me portait très bien, parce que le désir, ça porte quand même un désir. Ça peut détruire aussi. Mais avant que ça détruise, ça porte. C'est le rêve qui devient réalité. Alors cette histoire, elle a démarré par un email, et qui me répondait à un texte que j'avais envoyé, que j'avais écrit, et que j'avais envoyé à cette personne. C'était un texte, ça s'appelait Pygmalionisme, et c'était, en fait, c'était un écrivain qui écrivait des pièces de théâtre, et qui allait voir une statue tous les matins au jardin du Luxembourg. Enfin, c'était pas situé, mais dans ma tête, c'était le jardin du Luxembourg à Paris, et qui est tombé amoureux de sa statue, et qui parle à sa statue, qui l'ignore. Et en fait, ce qui m'est arrivé après, donc j'ai eu un message suite à cet envoi, et il avait fait une lettre qui a été prémonitoire, parce qu'il m'avait dit qu'il avait inversé, c'est-à-dire qu'il avait pris la statue, c'était un homme qui était la statue et une femme qui était la vivante. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec lui, c'est-à-dire, moi, quand j'ai reçu ce mail, c'est monté en moi, comme un geyser, le désir, quoi. D'un seul coup, toute ma vie basculait et c'était possible. Il pouvait se passer quelque chose là, il se passait quelque chose de très important et de possible, et de tout de suite c'était charnel, c'était de cet ordre-là. Alors on s'est vu au restaurant le soir, et moi j'étais dans un état, j'étais très très en alerte, mais très bien, très très calme, très bien. Très, très ouverte, quoi. Et moi, donc, il avait un costume, il s'était fait un costume, un costume d'homme de la ville, un manteau, un costume, et puis un chapeau, un feutre. Et donc, la première chose que j'ai demandé, j'ai regardé à côté sur la banquette, t'as pas ton chapeau. Voilà, ça je me souviens, t'as pas. Et il m'a dit, ah, le chapeau! Parce que j'avais fait beaucoup de réflexions sur le chapeau. Et le chapeau, alors je sais pas symbolique ce que ça veut dire, mais je trouvais ça un peu. M'as-tu vu? J'aimais pas trop, hein. J'aimais pas trop ça, non. En fait, bon, mon frère, il porte un chapeau, ça ne me dérange pas. Bon. Mais c'était le chapeau. Après, ça a été... ça a été beaucoup sur... la famille, curieusement. Sur la famille, ouais. Les gens... Parce que moi, j'ai pas d'enfants. Et en fait, j'aime bien les familles des autres. Ma famille, ça va, mais j'aime bien les familles des autres. C'est-à-dire, il n'y a pas de jalousie. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que il n'y avait pas de jalousie. J'ai pas été jalouse, j'ai trouvé que cette vie ne m'appartenait pas. Moi, je voulais une vie, je voulais entrer dans sa vie, mais de façon différente. Pas forcément cachée, mais comme une vraie amie, quelqu'un sur qui on peut compter quand même. Déjà, quand même, un peu. Et puis surtout, à qui on peut confier, qui peut être... Vous savez, ça, c'est un peu comme une petite fille qui confie tout à son... qui voudrait tout confier à son papa. Ouais, c'est un peu ça, quand même. D'abord, quand je suis arrivée au restaurant, j'ai trouvé plus beau qu'en photo. Mais en fait, après, j'ai réfléchi, il y avait la lumière, ce qui était tamisée du restaurant, qui était une lumière de nuit, quoi. Donc, on voit pas, les visages sont quand même très... Et en fait, après, il m'a ramené en voiture, il m'a raccompagné en voiture jusqu'à l'autobus, etc. Et là, je l'ai embrassé dans le cou et il a fait « Ah !» comme ça. Il a fait un son et j'ai tressailli et je me suis reculée, quoi.
Il voulait dire quoi, ce son?
Que c'était quelque chose d'inenvisageable, que ça l'ennuie, lui déplaisait. Voilà, ça lui déplaisait. Et puis je suis partie de la voiture, quoi. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que... Je me suis sentie dans la position... Vous savez, dans la position des femmes qui sont repoussées, c'est terrible. Les femmes repoussées, c'est terrible. Pour une femme, c'est terrible, quoi. C'est une position humiliante. J'ai été humiliée et moi, je me suis sentie rejetée, quoi. En fait, si je raconte l'histoire dans sa réalité, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que, en fait, la réalité, c'est qu'il n'était pas, il voulait pas que je rentre dans sa vie, quoi, tout simplement. Et moi, je me suis accrochée. Et j'ai vraiment cru, jusqu'au jour où j'ai plus cru, quoi. Et j'ai abandonné, j'ai renoncé. Mais du coup, j'ai renoncé à tout. Voilà. Donc, c'est trop de désir, trop fort, trop inassouvi, mais j'ai renoncé à cet amour, à l'amour, mais ça m'a ouvert les portes de l'écriture aussi.
Un truc comme ça qui me trotte dans la tête, qui m'envahit. Descend jusque dans les ongles de mes pieds pour me réveiller et me dire à quel point je tangue en y pensant. C'est comme cette bougie à la con. Tu sais, on s'en sert pour les anniversaires, tu souffles dessus, mais elle ne s'éteint jamais. Cette nuit, elle dort à côté de moi, nue. Pourtant, jamais elle ne dort nue. C'est un truc qu'elle s'était mis en tête de ne jamais dormir nue. Alors que moi, j'adore ça. J'imagine, sans dessus-dessous, à travers les draps, une odeur, un parfum endormi qui pourrait m'envahir de sa musique. Mais rien. Un barbelé se glisse à présent entre nous deux et je hais ma dormeuse. C'est pourtant là où j'ai très envie. Ce moment précis où rien ne se passe et où tout est vide dans mon corps. Comme cette route qui défile. Comme si tu n'arrivais jamais à destination. Ça a commencé par cette petite boule dans le ventre. Ça ressemblait à de la terre qu'on malaxe en permanence. Une sorte de terre argileuse qui, au début, est très agréable au toucher. Et puis, si elle sent que tu faiblis, elle se durcit petit à petit. Le tendre de la matière manque, on a envie qu'elle continue à épouser la forme des mains, de pénétrer entre nos doigts, de la sentir de plus en plus chaude, qu'elle glisse dans les lignes de chair comme un torrent dévorant un lit. Mais quand elle commence à durcir, c'est là où ça blesse. Au début, tu te dis que tu vas pouvoir la ranimer. On a vécu des trucs quand même. On vient pas de rien. Tu te dis qu'au lieu de l'entretenir avec ta main, c'est tout ton corps qui va s'y mettre. Tu vas te rouler autour d'elle, autour de cette petite boule. Lui faire sentir cette peau. Lui rappeler à son souvenir juste un instant de peau, de ligne de main. Et même que tu serais prêt à la prendre dans ta bouche pour la rendre plus humide. Mais elle est toujours là au fond de ton ventre, à se déformer de moins en moins, caressant l'idée qu'elle serait bien installée à un endroit fixe où elle pourrait durcir son corps et devenir pierre.
Mais le désir, c'est pas la paix, hein. Mais c'est quand même le flamboiement, c'est quand même, c'est pas l'agressivité, c'est l'enthousiasme, la force, la vitalité, quoi. C'est une vitalité, c'est un élan de vie très fort, quoi. Puis après, ça consume.
Je me disais, là-bas, dans ces corps et tout ça, il y a quelque chose, il y a un mystère, il y a, dans Céline, à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit, Ferdinand, tant que vous vivrez, vous irez entre les cuisses des femmes chercher les secrets de ce monde. Et, franchement, il y a le désir physique, immédiat, bon. Mais il y a ce secret, c'est une quête quand même, une quête un peu imbécile, parce que voilà, ça pourrait être une quête mystique ou poétique, ou non, c'était une quête de coucher avec des filles, mais quand même une quête d'essayer de comprendre qui sont les gens, comment ils marchent, quelles sont leurs différences, ça m'a beaucoup occupé ça. Et puis après, alors, mon désir a diminué un peu. Mais alors, mon désir pour cette personne, mais en général un peu. C'est-à-dire, en plus, je suis encombré par des conneries, mais par des espèces d'esthétisme, de goût, d'esthète, de dandy. Et je déteste le vieillissement des corps. Voilà. Le mien et celui des autres. C'est une chose qui me bloque, quoi. Que je comprends, que j'admets. Et, par exemple, la personne dont je parle, je la trouve, mais objectivement, extraordinairement belle. Elle a un truc qui me séduit totalement, enfin, mais voilà, elle a un corps et j'ai un corps un peu flétri, un peu, et il y a un moment où tu t'en rends compte, une heure avant tu t'en rends pas compte.
Il y a un mot qu'il avait tilté sur ce mot qui m'a écrit lui, c'est interstice. Dans les interstices. Donc en fait, c'est vrai que ce mot m'a fait interstice parce que c'est vrai que l'amour se ramifie dans tout, c'est sous la peau, c'est dans le cœur, c'est dans le sexe, c'est dans le ventre, c'est dans la tête, et dans toutes les interstices, les circonvolutions du cerveau. Et c'est sans doute un de ces mots qui m'a fait qui m'a plu.
C'est en regardant l'aube se lever que je repense encore une fois à lui, à son visage, ses mains, sa peau chaude, enivrante, dévoreuse de sommeil. Je refais le chemin de nos prémices. Dans ma gorge et mon esprit coule encore ce liquide amoureux. Je goûte au bas-fond magnifique de mon adolescence. Un jour, je l'ai revu. Exercé dans ma vie d'homme, lui semblait affable, comme avant. Au loin, sa silhouette, toujours la même. Ma main touche le mur en crépi d'un vieil arrondissement bloqué par l'interdit. Notre interdit retrouvé. Des images reviennent. Il est si beau. Pourquoi aucun son ne sort de nos bouches? Ce sont ces 20 dernières années qui nous ferment. Il était si beau. La surprise est éclatante. Grands cheveux, les mêmes hanches, la même démarche. Elle portait un chemisier presque transparent. Je reconnais tant ses yeux. Elle m'a souvent traversé de ses regards, brefs, intenses. Sa silhouette s'est approchée de moi comme une danse brumeuse d'un lendemain d'une très bonne drogue. Elle m'enivrait toujours autant. Elle était devenue femme et moi, amoureux d'elle. Nos mains se frôlent. Nos langues de joyeux déposent des bijoux dans nos bouches, des pierres précieuses. Pas un mot, plus aucun mot.
Total Désir, une création radiophonique de Marc-Antoine Granier. Avec Sandrine Cartier, Brigitte Hautefeuille, Thomas Lalouve, Bernard Schmitt. Merci à Marguerin Lelouvier, Gilbert Namian, Olivier Minot. Texte, création sonore et musicale, Marc-Antoine Granier. Équipe de réalisation, Alain Joubert, Lionel Quentin. Équipe de coordination, Chouchane Djergaïan, Irène Omelianenko.
L'intégralité de cette création sonore est disponible en podcast un an, puis en ligne à vie sur le site de France Culture. Demain, à 23h, Une certaine nuit d'été, par Alice Fargier et Céline Terce.